Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, l'émission On en jase, votre émission du midi sur Boulevard depuis le mois de septembre. Midi, une minute exactement. Il y a eu la belle petite neige blanche qui a tombé tout à l'heure. Peut-être qu'il y en aura un petit peu d'autres aujourd'hui. Bref, on se sent comme dans le temps des fêtes, mais c'est les vendredis fous. Si vous voulez profiter de plein de rabais, allez chez votre commerçant préféré. On a eu passe-temps 3000 ce matin. Dans Marceau le matin, il y a des rabais jusqu'à 25%. Des rabais jusqu'à 50% au 7e ciel. On a reçu Mel Tessier du 7e ciel. Hé, Seigneur, que c'est le temps de magasiner, les amis. Marc de passant 3000 nous a dit là, mon backstore est full. Je peux même plus recevoir de livraison pour mon magasin déborde. Venez vider le magasin en fin de semaine pour qu'on mette des jeux qui sont présentement dans l'entrepôt, dans le magasin, et qu'on remplisse l'entrepôt pour Noël. C'est-tu pas beau, ça? Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. Meilleure période, meilleure journée de l'année pour acheter vos cadeaux de Noël. Si vous voulez économiser,
ça, oui.
C'est aujourd'hui que ça se fait.
Oui, il y aura ça, puis il va y avoir le Cyber Monday.
Ouais.
Qui va pouvoir, mais c'est plus fun d'y aller en personne. Jase avec le monde.
Aller encourager nos commerces d'ici.
Exactement.
Des fois, tu vois quelque chose qui est en rabais à quelque part, mettons, je le dirais Amazon, mais tu te rends compte finalement qu'il l'a dans ton commerce à côté de proximité,
oui.
Au même prix. Ça demande deux clics de plus, mais t'économises la même chose, puis t'encourages les gens d'ici.
Exactement, on achète local, guys. C'est très, 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 très important. On a avec nous en studio Farnel Morisset. Farnel, comment vas-tu?
Je vais très bien.
Ouais.
Je suis très content de la belle petite neige qui est tombée tantôt. Je suis content qu'il y en ait plus qui tombe maintenant aussi.
Ouais, parce que là, tu t'en vas à la Pocatière, toi,
ouais,
là, mon
je m'en
ami.
Vais. C'est ça, je vais faire un tour au cégep de la Pocatière. Je suis vraiment excité. C'est toujours un peu le fun de sortir de Québec pour rencontrer des gens qui font des choses excitantes ailleurs. Alors, c'est ce que je vais faire en fin de journée aujourd'hui.
Monsieur le conférencier, tiens.
Ah, ouais. J'aimerais tout ça assister à une conférence de Farnel. Ça doit être tellement.
Toi, t'as la personne, toi, Ismaël, en
c'est
studio.
Ça,
c'est ça.
Tu
as raison. Il est en studio avec nous mercredi. Il est présentement à Montréal, notre chroniqueur qu'on adore, Lambert Drainville. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Les gars, le segment débat Farnel-Lambert du vendredi à midi. Pascal, on est prêt. Tu sonnes la cloche.
Ding, 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 ding. Ça part.
Let's go, ça part. On commence avec le départ de Stephen Guilbeault du Conseil des ministres. Et avant d'en parler, je veux vous faire entendre ce que François-Philippe Champagne a dit à cet effet-là. Et ce qu'il a dit surtout en parlant des deux pas au niveau du gouvernement canadien, c'est-à-dire l'économie et l'environnement. On écoute ça et par la suite, on débute le débat. Farnel Morisset, pas certain qu'hier, avec ce qui a été annoncé pour l'oléoduc en Alberta, qu'on pense vraiment que les changements climatiques, c'est l'enjeu de la prochaine génération.
Ça paraît pas très bien, mettons, je suis d'accord. C'est drôle parce qu'on n'a pas vraiment parlé beaucoup ici, mais à Ottawa, ça brasse beaucoup là-dessus. Je veux dire, le bloc qui sort aussi pour dire nous allons défendre la Colombie-Britannique. Je veux dire, est-ce que c'est le bloc Colombie-Britannique maintenant? Non, mais en tout sérieux, je veux dire, je salue l'importance de justement avoir une représentation régionale qui est assumée là-dessus. Puis c'est quand même, je veux dire, constitutionnellement, le gouvernement du Canada aurait le droit de juste imposer une pipeline à la Colombie-Britannique si elle voulait le faire, mais politiquement, ça se fait plus de même depuis longtemps. Mm-hmm. Puis je pense que cette espèce d'équilibre-là, il n'est pas facile à trouver présentement.
En effet, t'en penses quoi, Lambert, de cet équilibre-là, justement, économie, environnement? Hier, je suis allé souper avec un de mes amis, puis je disais, mais ça me... qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de BAP qui prend 5 ans à faire puis qu'on n'est pas capable de faire de gros projets à, oh yob, l'environnement, on fait tous nos projets. Me trompes-tu?
La différence, c'est qu'avant, c'était pas assumé, puis ben maintenant, ça l'est. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Le Canada, ça a toujours été un État pétrolier, gazier. C'est juste que sous Justin Trudeau, il faisait à tout le moins l'effort de se donner bonne conscience. T'sais. Depuis début des années 2000, l'extraction pétrolière a augmenté de 70% au Canada. Au niveau des cibles, on visait 40% de moins de GES comparativement à 2005 d'ici 2030. Écoute, il y a deux ans, on était juste à 8,5% là, de cet objectif-là sur 40%. Fait qu'on était déjà très loin. Puis la réponse qu'on a eue cette semaine, la réponse qu'on a eue hier, c'est que justement, le Canada va arrêter de faire semblant qu'il n'est pas un État pétrolier. Puis avec Carney, on va l'assumer. Et on va dire bye-bye nécessairement à toutes les cibles climatiques. Fait que c'est bien beau leur discours, c'est bien beau François-Philippe Champagne, mais à un moment donné, faut arrêter de se mettre la tête dans le sable.
Ça se peut-tu qu'au niveau de l'acceptabilité sociale, ça ait changé aussi un peu avec l'arrivée de Donald Trump, de ses tarifs, du fait qu'on doit développer notre économie, que les gens ils sont un petit peu plus enclins à dire « Ouais, on était bien d'accord avec l'environnement, mais on se rend compte officiellement que l'économie, sans elle, ben, on n'est pas très fort, puis on n'est pas très fort aussi au niveau international. » Ça se peut-tu que cette acceptabilité sociale-là est jouée dans le fait qu'on s'assume plus maintenant au niveau gouvernemental?
Ouais, tu sais, je pense qu'il y a peut-être un gros non-dit dans ce qui se passe présentement, qui est que si on a plus de pipelines qui permettent de sortir le pétrole canadien vers les océans, ça nous achète des options qui ne sont pas les États-Unis. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement, si on vient à négocier un peu plus dur ou si les États-Unis viennent à négocier plus dur avec nous, on pourrait dire bon, ben, on va fermer les valves au pétrole qui vient de l'Alberta chez vous. Les États-Unis en ont besoin, ça nourrit leurs machines pétrolières à eux aussi. Alors, avoir ces options-là, je pense que ça figure peut-être un peu dans la façon de penser des gens, même si c'est sûr qu'au niveau politique, jamais on va faire une affirmation du genre. Ce serait ce qui mettrait le feu aux poudres avec nos relations aux États-Unis à le dire ouvertement. Mais il y a comme un sous-texte de ça, je pense, qui se passe.
Lambert, t'en penses quoi?
Absolument. C'est sûr que la donne a complètement changé. La donne a complètement changé, puis c'est pour ça que c'est plus facile maintenant pour les... Tu sais, puis on l'a vu partout, dans tous les pays en Occident, les reculs sur les mesures environnementales. On l'a vu, évidemment, c'est Trump qui a lancé le bal, mais ça n'a pas été long après que Mark Carney ait été élu, qu'il ait jeté à la poubelle la mesure sur la taxe carbone pour les individus, les quotas obligatoires de vente électrique. Et là, voilà qu'il y va avec l'abolition, avec en fait les mesures restantes des avancées qui avaient été faites sous Justin Trudeau, ben voilà qu'il les jette à la poubelle. Le plafond des émissions pétrolières gazières, le règlement sur l'électricité propre, feu vert à des nouveaux pipelines. Parce que, tu sais, au final, le Canada a toujours été un cancre en matière d'environnement, mais un autre endroit où le Canada est très, très, très mauvais, c'est au niveau de la productivité. Et avec la décision de Mark Carney d'aller de l'avant avec ce pipeline-là puis de mettre en place les mesures pour que ça se réalise, ben on voit qu'il a choisi son combat. Mark Carney va faire de l'économie, de la croissance économique, la diversification des partenaires commerciaux, la hausse de la productivité canadienne, son fer de lance, puis ça va être ça. Les industries, tu sais, des ressources naturelles, là, tout ce qui est pétrole, gaz, mine, là, ce sont parmi les secteurs où chaque heure de travail génère le plus de valeur économique. Alors, plus tu développes ce secteur-là, plus tu fais, ben, en tout cas sur papier, à tout le moins monter la productivité moyenne du pays. Et c'est à ça que Mark Carney s'attaque en allant de l'avant avec ses différents projets. C'est vrai pour celui du pipeline de l'Alberta, mais c'est vrai aussi pour ses autres projets d'envergure nationale dont il parle souvent. Et ben, c'est sûr que pour le ministre Guilbeault, c'était rendu difficile, je pense, de continuer d'avaler les couleuvres après en avoir avalé quand même quelques-unes sous Justin Trudeau, quand on regarde Trans Mountain, quand on regarde le projet Baie du Nord. Il y avait au moins des efforts qui étaient faits à ce niveau-là, mais là, clairement, c'était rendu difficile pour le gars qui était le cofondateur d'Équiterre, qui montait la tour du CN pour la cause environnementale, ben, de dire qu'il pouvait cautionner désormais un nouveau pipeline. Je pense que c'était rendu un petit peu trop fort en café pour lui. Là.
Farnell, pourquoi Stephen Guilbeault reste dans le Parti libéral? Parce que moi, je me dis, s'il claque la porte de son ministère, qu'il claque la porte du parti, mais là, je me dis, est-ce qu'il y a un jeu de coulisses qui s'est fait avec Mark Carney? Parce que Carney est à deux députés d'une majorité, puis il faut pas qu'il en perde.
Ben, je salue le geste de Stephen Guilbeault, même si, je veux dire, on pourrait en parler en long et en large sur l'acceptabilité sociale des pipelines, parce que c'est conséquent avec, de un côté, clairement, ses positions morales à lui, ses convictions très profondes, et aussi avec le parlementarisme. Comment est-ce que c'est supposé fonctionner un parlement? En tant que membre du Conseil des ministres, en tant que ministre, Stephen Guilbeault était tenu à la solidarité ministérielle. Puis ça, c'est un principe qui est, on pourrait dire, quasi constitutionnel. Les ministres ne sont pas supposés publiquement s'afficher contraire à des décisions du gouvernement. Puis ça, c'est un principe qui est quand même super bien établi à travers presque toutes les démocraties de style Westminster comme la nôtre. Parce que, bon, ben c'est pour essayer d'éviter de la bisbille publique et ce qui permet d'avoir une discussion un peu plus franche à l'intérieur du Conseil des ministres. Les ministres sont supposés être très
francs. Derrière les portes closes.
Exactement. Alors, si tu commences à avoir peur que les ministres vont sortir en public après, ben là, tu risques, en tant que toi-même de ministre, de modérer tes propos derrière les portes closes. Ça fait un débat qui est moins bon, des décisions qui sont moins bonnes. Mais les députés sont pas tenus à ça. Les députés, même un député qui est membre du parti politique qui forme le gouvernement, en théorie, est indépendant du gouvernement. En tant que député, tu n'es pas obligé de voter avec ton parti. Tu n'es pas obligé de voter avec le gouvernement si tu es membre du parti qui forme le gouvernement. Il n'y a aucune obligation de le faire dans notre système parlementaire. Alors, c'est parfaitement conséquent avec le parlementarisme aussi de Stephen Guilbeault de dire « Bon, ben, il n'est pas d'accord avec certaines décisions du gouvernement, alors il ne peut plus rester membre du Conseil des ministres. » Mais que dans l'ensemble, il maintient une confiance dans le gouvernement. Alors, même s'il n'est pas d'accord avec certaines décisions ici et là.
Ouais, la portion environnementale
exactement,
de Carney.
Ça ne l'empêche pas d'être un parlementaire complet qui peut prendre une vision d'ensemble et dire ben, « Je suis quand même confortable, j'ai quand même confiance d'ensemble avec le gouvernement. Je vais peut-être voter contre certaines mesures de pipeline maintenant parce qu'il s'est donné le coup des franges pour le faire. »
En effet.
Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es obligé de, comme tu dis, claquer la porte sur l'ensemble de tes collègues parce que tu as un désaccord avec un sujet politique. Puis d'ailleurs, j'ai pas l'impression, on parle de claquer la porte, mais ça semble pas être quelque chose que M. Guilbeault fait avec énormément d'amertume. Je ressens pas nécessairement de la colère, c'est juste qu'ils ont une différence d'opinion qui ne cadre plus dans ses valeurs, dans ses convictions à lui. Alors, il préfère faire la chose honorable à faire, qui est quitter son poste de ministre pour pouvoir s'exprimer plus librement après.
Non, en effet, ça se fait tout en douceur, puis c'est une différence de philosophie environnementale sur les cibles à atteindre entre ce que Stephen Guilbeault pense et également Mark Carney, les actions de Mark Carney.
C'est dur quand même à ingérer de cette manière-là, puis Lambert, peut-être que tu auras cette vision-là ou pas du tout, mais pour moi, c'est de faire à moitié le pas vers ses convictions. En même temps, est-ce que c'est parce qu'il se dit ben, « je vais finir mon mandat dans le pire des cas puis je vais aller voir ailleurs si j'y suis. » Est-ce que je... Mais je me dis que tu es encore au sein du parti. Puis l'exemple que Max et moi, sur lequel on discutait ce matin, c'est de dire si les Leclerc ici là, font quelque chose qui sont contre mes valeurs, je me dis ben, « moi, publiquement, je ne veux plus être en onde. Mais avez-vous un petit poste en bureau pour... » Tu sais, ça reste que je travaille pour une entreprise peut-être qui ne s'en va pas...
De... Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Sur la même lignée que mes valeurs. Soit je ne le comprends pas, ou soit c'est une vision autre. Mm-hmm.
Lambert, t'en penses quoi?
Ben, il pense peut-être que lui, en restant au sein du caucus, il peut continuer d'avoir une certaine influence sur la suite des choses. Il y a peut-être ça, considérant qu'on entend en coulisses qu'il y a beaucoup, il y a une frange évidemment très progressiste des élus libéraux qui sont vraiment pas contents des nouvelles orientations du parti. Est-ce que Stephen Guilbeault pense pouvoir être un espèce de rassembleur de ces forces-là pour essayer à l'interne de continuer de faire pression sur son gouvernement pour qu'il s'écarte le moins possible, en fait, de sa vision de ce que doivent être les mesures environnementales du Canada pour la suite des choses. Il y a possiblement ça. Il ne faut quand même pas, encore une fois, se mettre la tête dans le sable. Je suis retourné regarder la plateforme électorale, puis on a tous été un petit peu bluffés, possiblement M. Guilbeault aussi, par le discours de Mark Carney dans les derniers mois. C'est quand même quelqu'un qui avait été responsable aux Nations Unies là, de... C'était quoi exactement son titre? Mais il y avait eu un poste aux Nations Unies pour tout ce qui est la transition écologique.
Ouais, développer l'économie verte.
Exact. Mais quand tu regardes la plateforme libérale de la dernière élection, il promettait explicitement de faire du Canada une super puissance énergétique mondiale. Il parlait de trouver un équilibre entre les ressources de l'avenir et les ressources du passé. Ce qui est toujours un peu contradictoire, là. Comment tu fais pour diminuer les émissions de GES tout en continuant d'augmenter la production de pétrole et de gaz? C'est souvent une utopie qui est répétée par les élus libéraux qui fait vraiment aucun sens. Il disait être ouvert en campagne électorale au gazoduc transfrontalier. Il disait être prêt à utiliser les pouvoirs d'urgence fédéraux pour accélérer des nouveaux projets énergétiques. Fait qu'on le savait un petit peu, il avait annoncé ses couleurs, puis maintenant il va de l'avant, puis c'est comme si tout le monde était flabbergasté par ça, mais M. Carney s'est fait élire en tant que, faire de lance de en tout cas en tant que quelqu'un qui allait mettre l'économie canadienne puis la productivité canadienne au haut de sa liste des priorités, puis il prend des décisions dans ce sens-là. Politiquement, maintenant, c'est un geste qui est très risqué. Tu regardes où est-ce qu'il s'est fait élire, ce gars-là. Ben, il a fait élire 44 députés au Québec, 20 députés en Colombie-Britannique. En Alberta, il en a fait élire 2. Fait que, qu'est-ce que ça dit, ça? Ben, ça dit que pour tout le capital économique qu'il espère générer, ça va lui coûter cher en capital politique à M. Carney et semble qu'il soit prêt à vivre avec ça.
Mais est-ce que ça, stratégiquement, ça va lui amener pour une prochaine élection un gouvernement majoritaire? Ça va être à suivre parce que évidemment il y aura des ressacs. Surtout en Colombie-Britannique, je pense qu'il risque d'avoir des ressacs parce que le premier projet de pipeline va passer là, passera pas au Québec. Là.
Mais des ressacs pour aller où? Ces électeurs-là en Colombie-Britannique qui sont pas satisfaits, ils vont aller où,
Farnell? Exactement, vont retourner au NPD parce que Farnell, Lambert, est-ce que vous le saviez? C'est la course à la chefferie.
Oui, mais es-tu convaincant,
l'NPD? Hein?
Ben, tu vois, c'est peut-être course. Mon erreur à moi, mais je tends à oublier dans mon analyse politique que le NPD est encore un parti politique qui aspire au pouvoir.
C'est la course
avec une
à
colonne
la chefferie.
Vertébrale, avec des gens qui peuvent influencer la politique.
Pascal, vous êtes donc bien pessimiste.
Non, on se questionne.
Rob Ashton, Tanil Johnston, Avi Lewis, Eater McPherson... Et Tony McHale était à Montréal
honnêtement,
hier.
Honnêtement, si je savais pas qu'on parlait politique, je pourrais penser qu'on parle de hockey en ce moment.
Ben oui, mais c'est vrai que ça ferait un bon alignement de 5 du Canadien.
En effet, ça sonne comme une première ligne. Ouais. Là, ouais.
Qui sont-ils?
C'est qui a le... C'est Evie Lewis, je pense que son chapeau de cowboy, c'est lui. Je me souviens plus. En tout cas,
non, je pense que c'est Tony McWhale.
C'est Tony McWhale, oui.
C'est l'agriculteur,
oui, qui a son chapeau de cowboy. C'était cœur, hein? Je te le dis, il pourrait se présenter au Texas, mais il est à gauche au Canada dans les NPD. Je comprends pas trop. Mais bref, c'est la course à la chefferie. Alors, je le sais que là, je suis en train d'exciter nos auditeurs. Je le sais que je suis en train de vous exciter parce que vous vous dites, waouh, le NPD a fait un débat hier à Montréal! Au Québec, pour convaincre les électeurs du Québec de voter pour eux. Et pour ça, ils ont parlé. Bien, tout le monde a essayé de parler en français. C'est beau. Ils ont voulu venir nous chercher. Ouais. Alors, 418-971-1021, je veux que vous donniez une note aux députés du NPD qui se présentent pour la chefferie. Je veux que vous leur donniez une note en français. Est-ce qu'ils ont la note de passage? Mais avant, question là, de vous... mettre dans le bain, et c'est Lambert qui nous a envoyé ça, on va écouter l'ancien chef qui avait créé cette vague orange au Québec du NPD, Jack Layton. On écoute son français. Vous êtes prêts, tout le monde? On écoute le français de Jack Layton.
Ministre, quel statut?
Oh, puis, guys, comme français, ça, Jack Layton?
Moi, je le trouve très, très bon. Son français, c'est un français d'un anglophone canadien, mais c'est un français, on n'a aucune preuve. Aucun problème à le comprendre.
Il parle sûrement mieux en français que moi, je parle en anglais. Donc, tu sais, moi, ça me satisfait. Lambert, t'es d'accord?
Son français était excellent, puis il y avait une compréhension aussi de la nation québécoise qu'on n'a pas vue depuis lui chez les candidats à la chefferie ou même chez l'ancien chef Jack Meeting.
En effet, tu as entièrement raison.
Québec, je parle, des réalités du Québec, évidemment.
Oui, le NPD était plus connecté sur les réalités du Québec et Jack Layton, d'ailleurs, avait créé cette fameuse vague orange qui avait pratiquement envoyé le Bloc québécois à l'agonie au Québec. Maintenant, on écoute les candidats d'hier. Et là, c'est là, guys, 418-971-1021. Envoyez-nous votre note parce que nous, on va les noter immédiatement après avoir écouté ceci. Je pensais pas que Mark Carney t'ait rendu francophone.
Je me présente. Pensais troisième pas de temps, c'est la meilleure.
Ouais, tu sais, moi, j'approche la situation en tant que quelqu'un qui a déjà vécu ou, disons, je ne parlais pas nécessairement la langue dominante ailleurs. Il y a deux choses qu'il faut séparer ici. Il faut vraiment faire attention à ne pas rire de quelqu'un parce qu'il ne parle pas parfaitement le français.
C'est difficile parce que c'est quand même quelque chose d'un peu ludique.
Oui, oui.
Sans rire de la personne, ça peut faire rire.
C'est sûr.
La manière dont c'est prononcé.
Mais tu sais, si on veut aimer notre langue, il faut nécessairement aussi aimer ceux qui font un effort de l'apprendre. Et ça commence avec des gens qui la parlent un peu comme ça.
Sans gêner.
Ceci dit, il y a une grosse différence entre aimer quelqu'un qui apprend le français et accepter que quelqu'un qui aspire à mener le pays qui a deux langues officielles, dont le français, dont la langue du peuple québécois, qui est à ce niveau-là quand il est rendu à penser que c'est adéquat et acceptable pour mener le Canada. Alors, tous mes critiques sont très légitimes envers la deuxième catégorie, disons. Là. Je ne pense pas que c'est acceptable que quelqu'un qui aspire à être premier ministre du Canada ne parle pas un français beaucoup plus développé que ça. Mais je nous cautionne tous. Il y a bien des gens qui vont écouter ça qui n'ont pas un français parfait non plus. Là. Alors, je veux tous dire à ces personnes-là, on vous aime, on vous appuie dans votre apprentissage du français. C'est juste qu'on considère que si on veut mener le pays, il faut le parler et pas être en train d'apprendre.
On dirait que Farnell est en train de faire un discours aux gens gens qui veulent voter oui pour le référendum, on vous aime.
On vous aime.
On vous aime.
Oui, on
a. Lambert, là, t'as dit plusieurs fois, attends, ben let's go, vas-y. Qu'est-ce que t'avais derrière la tête?
Non, mais là, parce qu'il y a une différence aussi entre, tu sais, démontrer un intérêt envers l'apprentissage du français, de faire des efforts malgré un français très, très boiteux, et soudainement se présenter à la chefferie d'un parti national et du jour au lendemain, parce que tu te présentes comme candidat à la chefferie de ce parti-là et potentiellement éventuel premier ministre ou première ministre, de là soudainement te rendre compte que « Ah ben tabarouette, je m'en suis sacré du français pendant… » Ben pour certains d'entre eux, ils ont comme 72 ans, là, ou ils sont assez âgés. Je m'en suis sacré pendant toutes ces années-là. Puis là, maintenant que je suis dans un poste où je veux aspirer à devenir premier ministre, ben là, soudainement, ça devient important. Tu sais, niaisez-nous pas. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a autant sur la... Puis là, pour ça, je me concentrerai pas juste sur la forme, parce que la forme est absolument épouvantable, on vient de l'entendre. Donc, sur la forme, aucune sensibilité envers le fait français, aucune sensibilité envers les intérêts de la nation québécoise, et ça s'est concrétisé dans les commentaires des différents candidats aussi sur les enjeux québécois. Ils se sont fait questionner notamment sur le projet de loi 9, sur le renforcement de la laïcité au Québec. Madame McPherson, qui est la seule députée élue à se présenter pour être chef, a dit que c'était terrible la laïcité, que c'était une attaque contre les droits des femmes, contre les droits des femmes musulmanes. On se rappelle que la laïcité fait plutôt consensus au Québec. M. Lewis, même chose, a dit que c'était inacceptable. Bref, il ne faut pas être dupe. Là. Moi, je suis d'accord avec Farnell. Je salue quiconque souhaite apprendre le français. Malheureusement, pour le Canada anglais, on a toujours l'impression, que ce soit à travers, quand on a vu l'exemple de Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, quand on a vu la nomination de la gouverneure générale qui ne parle pas français du tout, qui a dit qu'elle allait l'apprendre et qu'il ne le parle toujours pas, M. Rousseau ne le parle toujours pas, les anglophones qui aspirent à des postes importants au Canada se découvrent une sensibilité envers la langue française qu'une fois et uniquement lorsqu'ils sont dans une position où c'est absolument nécessaire pour eux de l'avoir. Fait qu'en tout cas, tu sais...
Moi, je vais vous le dire bien honnêtement, puis je te le dis à toi aussi, Pascal, c'est vrai. Je t'en grogne. Je déteste le fait que un parti politique canadien où il y a deux langues officielles ne nous présente pas quelqu'un qui est capable de mieux parler français que ça. Je trouve que c'est une atteinte à notre culture. Je trouve que c'est une atteinte à notre Québec. Là,
mais
je vais parler comme
un peu un miroir de ce qui se passe de l'autre côté de notre frontière, dans le sens où le français, est-ce qu'il est enseigné comme il se devrait en deuxième langue seconde? Est-ce qu'on y donne assez d'attention? Est-ce qu'il est assez intéressant aussi sur le marché? Tu sais, toutes les nouvelles générations, les plus jeunes, là, pour eux, l'anglais est hautement plus important parce que c'est ça qui va leur servir au niveau professionnel, qui va leur servir dans leur culture, qui vont leur... Tu sais, on peut pas ne pas avoir ça en tête, bien qu'on souhaite défendre le français. Moi, j'en suis une qui l'apprécie, qui l'adore. J'aime ça encore écouter mes choses en français. J'aime ça encore écouter, ben, peut-être pas avec toutes les traductions, là, mais il y a beaucoup de contenu quand même francophone. Puis j'aime ça lire en français. Mais je pense que je fais partie de cette dernière génération-là qui a eu des semi-cours d'anglais, là, acceptables et pas. Mais il faut regarder ce qui s'en vient. Il faut regarder l'importance que le français a aussi de l'autre côté de la frontière. Puis, tu sais, tu voyages un peu. Puis, aussitôt que tu dis que tu viens du Canada, ils sont comme, me semble que ton anglais. Oui, oui. I'm from Quebec City, the French part of Canada. OK. Même à l'étranger, soit aux États-Unis, c'est pas tant connu que le Québec où on parle français. Mm-hmm. Est-ce qu'on a donné assez d'importance à ça? La question se pose.
Ben moi, la question que je me pose, puis je pense que le NPD va devoir se le poser aussi, c'est est-ce que le NPD aspire réellement encore à être un parti pan-canadien? Parce que, je veux dire, on le voit, là, il semble avoir un peu plus d'intérêt pour une représentation régionale. Je veux dire, le Parti conservateur a un peu misé là-dessus, mais le Parti conservateur qui, lui, aspire à être pan-canadien, ne peut pas miser pleinement là-dessus. Tu parlais, par exemple, d'un candidat avec un beau chapeau de cow-boy. Faut pas oublier que le NPD a commencé comme étant un parti de travailleurs de l'Ouest canadien.
Non, je savais pas ça, c'est intéressant.
À l'origine, le NPD, c'était ça. C'était un parti rural, travailleur, progressiste, quand la gauche était largement un mouvement social d'ouvriers qui se mettaient ensemble pour pouvoir faire un contrepoids au pouvoir financier qui venait largement des villes. Peut-être que le NPD se recentre un peu sur ça. Et moi, je ne prendrais pas pour acquis nécessairement les militants auront à le dire, que le NPD veut réellement être encore un parti de tous les Canadiens partout, ou si c'est
veut
plutôt
ou
un parti...
Veut se concentre.
Ou peut-être qu'il se concentre, ouais. Je pense pas qu'on va avoir des gens de NPD qui vont l'avouer ouvertement, mais certainement, ils vont beaucoup plus se concentrer là où ils ont encore certaines assises, je pense.
Et là, justement, peut-être essayer d'aller gratter un petit peu en Colombie-Britannique avec ce qui se passe au niveau environnemental. Lambert Drinville, je te laisse le mot de la fin.
Non, ben écoute, il y a tellement de similarités entre ce qu'on voit avec Québec solidaire, entre les deux partis orange, Québec solidaire au Québec, puis le NPD au Canada. Tu sais, comme disait Farnell, je pense qu'il faut arrêter peut-être d'assumer que le NPD veut être un parti pan-national, au même titre qu'il faut arrêter de penser que Québec solidaire se gouverne en fonction d'éventuellement devenir un parti de gouvernement. C'est deux partis très similaires, deux partis très à gauche, deux partis qui vivent une séquence très difficile, deux partis qui ont, le QS ont une course à la chefferie dont on n'a absolument pas entendu parler, le NPD ont une course à la chefferie dont on n'entend absolument pas parler. Et effectivement, comme Parnell le disait, je pense qu'il faut peut-être cesser de croire à ce mirage-là, que ce sont les partis qui, c'est ça, pour ce qui est du NPD, est un parti pan-national, mais ça demeure quand même, malgré ce débat complètement foireux, la meilleure journée que ce parti-là a eue depuis longtemps.
Parce qu'on en a parlé?
Ben, ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Et deuxièmement, parce que avec le positionnement que le Parti libéral est en train de prendre, ils sont en train de leur libérer toute la gauche de l'échiquier politique, où le NPD vont possiblement pouvoir retourner aller chercher quelques gains à ce niveau-là.
T'as entièrement raison. Alors, à Rob Ashton, Tanil Johnston, Heavy Lewis, Heather McPherson et Tony McHale, et non, Pascal, CV, ce n'est pas l'alignement de départ des Golden Knights de Vegas qui affrontent le Canadien à 16h ce soir. On souhaite bonne chance dans la course à la chefferie au NPD.
On a fait bonne chance.
Farnell Morisset, Lambert Drinville, c'est encore un bonheur et un plaisir de faire de la radio avec vous autres. On se reprend vendredi prochain dans ce segment débat. Et Lambert, tu seras avec nous comme à l'habitude le mercredi aux alentours de 13h.
Absolument.
Toujours un plaisir.
Bon week-end, les amis. Salut. Pascal, tu nous as trouvé un excellent invité pour après la pause. C'est l'enseignant Sylvain Duclos. On va revenir sur l'affaire Bedford avec la loi sur la laïcité hier. On a renforcé justement les paramètres du côté de Jean-François Roberge. Et l'enquête, selon Sonia Lebel, se terminerait prochainement pour ces 11 enseignants qui étaient suspendus avec salaire à présent.
Oui, ils demeuraient toujours payés à leur plein salaire, bien qu'ils soient suspendus depuis l'été 2024. Puis, tu sais, tout le monde était un peu fâché devant la lenteur du processus d'enquête. Mm-hmm. On se disait, ben là, c'est-tu tombé en deux craques quand c'est bien important?
Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend, là, ça fait plus d'un an qu'ils sont suspendus avec salaire.
Oui, puis là, ils perdraient leur brevet d'ici quelques semaines, c'est ce qu'a annoncé la ministre Sonia Lebel.
Alors, on parle de cela avec Sylvain Duclos après la pause et on va se faire un beau tour d'actualité également. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Merci d'être à l'écoute. On en jase.